Bonjour, Nicolas Lost au micro qui vous retrouve avec grand plaisir sur les ondes de Radio Grand Ciel pour votre émission Crescendo. Alors vous le savez, chers amis auditeurs et auditrices, je vous propose de partir en balade musicale pendant 30 minutes, balade à travers l'histoire de la musique, ou plutôt l'histoire des musiques, puisque nous voguons à chaque numéro dans des époques et des répertoires différents. Et c'est en période baroque que nous arrêterons la barque aujourd'hui, en plein règne du roi Soleil, le roi Louis XIV, pour rencontrer le compositeur d'un opéra, plus précisément une tragédie lyrique. Et cette tragédie s'intitule « Céphale et Pocris ». Alors, si je vous parle de cet opéra en particulier, c'est qu'il marqua l'histoire de la musique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait du premier opéra en France composé par une femme, par une compositrice, et qui se nommait Élisabeth Jacquet de la Guerre, et à qui ce présent numéro de Crescendo est consacré. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Crescendo et qui aujourd'hui est consacrée à la première femme à avoir composé un opéra en France et qui se nommait Élisabeth Jacquet de la Guerre. Au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, un chroniqueur célèbre, homme de lettres, qui se nommait Évrard Titon du Tillet, a écrit les mots suivants. On peut dire que jamais personne de son sexe n'a eu d'aussi grand talent qu'elle pour la composition de la musique. Alors, phrase au parfum, je vous l'accorde, un petit peu misogyne, mais qui reflète bien, en fait, l'extrême difficulté que devait être alors le combat d'une femme pour s'imposer dans un monde masculin à l'ombre des Lully, des Marc-Antoine Charpentier ou encore de Lalande, et j'en passe. Mais si vous le voulez bien, passons d'abord par la genèse de cette musicienne d'exception, pour nous retrouver tout simplement dans le centre de Paris, aux abords de la Seine. Nous sommes à l'ombre des salons parisiens où l'on partage des après-midi de clavecin, et nous sommes aussi près des églises de la cité, là où fleurissent des élégants instruments dans ces églises. Et c'est dans ce quartier que la famille Jacquet vit de la musique. Alors, le grand-père Jehan Jacquet est facteur de clavecin, donc à Paris, et son papa, Claude Jacquet, est également facteur. Et il est aussi titulaire d'orgue, il est titulaire en l'église Saint-Louis-en-Lille. Et sa maman, la maman d'Élisabeth, se nomme Anne de la Touche. Alors, le couple Jacquet aura 4 enfants. Élisabeth est la deuxième, elle est baptisée à Paris le 17 mars 1665. Alors, on assimile la date du baptême également à la date des naissances, puisque les registres civils et les registres d'église ne faisaient qu'un alors à cette époque. Et les parents avaient décidé de donner à leurs 4 enfants une formation de musiciens et de musiciennes professionnelles. Et alors, ce qui était plutôt rare et contraire à l'usage à l'époque, puisque l'usage ne permettait qu'aux fils et surtout à l'aîné d'accéder à des études et à une formation approfondie en vue d'un métier. C'est le papa d'Élisabeth qui, avec autorité et ambition, se charge d'enseigner la musique à ses enfants. Et d'ailleurs, tous deviendront musiciens, puisque les deux garçons, Pierre et Nicolas, seront organistes. Et puis, la sœur, Anne, sera, elle, instrumentiste. Notamment, on la retrouve chez Mademoiselle de Guise, où elle travaille avec un certain Marc-Antoine Charpentier. Alors, Elisabeth Jacquet montre, dès son plus jeune âge, d'incroyables prédispositions pour le clavier. Vers 1673, alors qu'elle est âgée à peine de 7 ans, eh bien, elle fait ses débuts à la cour en jouant du clavecin et en chantant devant Louis XIV. Elle sut certainement charmer son auditoire par sa jeunesse, la grâce de sa voix et ses dons précoces de claveciniste. Oui, sous le charme de cette jeune fille prometteuse, le roi d'ailleurs la confiera son éducation à Madame de Montespan. Et plusieurs fois par semaine, eh bien, dans les salons de Madame de Montespan, Elisabeth Jacquet donnera des concerts dans les salons parisiens. Et en dehors de ces représentations qu'on pourrait appeler publiques, puisque le tout Paris venait dans ces salons de la bourgeoisie, elle se produisait également chez la noblesse. Et cette tutelle artistique, eh bien, lui permettra évidemment de bénéficier d'un enseignement d'excellence et de faire émerger un talent de compositrice. Elisabeth Jacquet fait preuve de modernité dans son jeune style d'écriture, révélant un très beau sens de la musicalité. Et je vous propose, eh bien, de nous en rendre compte avec notre deuxième halte musicale de cette émission. Eh bien, c'est un extrait d'une sonate pour violon, la sonate en ré mineur, et c'est le mouvement Presto que nous allons écouter. Un beau mouvement dans cet extrait de la sonate pour violon numéro 1, la sonate numéro 1 en ré mineur, et c'était le mouvement Presto, cette belle sonate composée par Elisabeth Jacquet de la Guerre, à qui est consacré ce numéro de crescendo. Alors ses œuvres, eh bien, sont souvent, dit-on souvent, imprégnées d'influences italiennes. Alors, elle abordera tous les genres dans sa carrière de compositrice, Elisabeth Jacquet, aussi bien la musique religieuse, la musique profane, les ballets, bien sûr, qui étaient très en vogue à la cour de Versailles, l'opéra, nous y reviendrons un petit peu plus tard sur ce premier opéra composé par une femme, et puis elle abordera aussi la tradition, la musique traditionnelle, la musique folklorique française, elle fera aussi même des chansons à boire. Alors à la fois, elle était à la fois organiste et claveciniste, et en septembre 84, à l'âge de 20 ans, eh bien, elle se marie et elle épousera un musicien. Ce musicien se nommait Marin de la Guerre. Il était lui aussi organiste à Saint-Séverin, alors à quelques encablures de l'île de la Cité où demeurait la famille Jacquet. Marin donc était organiste à Saint-Séverin. Et dès lors, eh bien, elle associe son nom à celui de son mari. Cela lui permettra, eh bien, d'allier la renommée des deux noms de famille et surtout de tisser des liens dans la communauté musicale. Alors, elle doit quitter, bien sûr, elle quitte la cour et elle s'installe à Paris où elle donne en son appartement de l'île Saint-Louis, eh bien, des leçons et des concerts qui ne tardent pas à être réputés. En 1687, elle publie son premier livre de pièces de clavecin. Hélas, ce livre a été perdu depuis, mais on a trace en tout cas de ce premier livre de clavecin. Elle écrit également un autre ballet, lui aussi, hélas, la partition de ce ballet perdue, qui s'intitule « Je à l'honneur de la victoire ». Il est représenté ce ballet en 1685 devant le roi Louis XIV. Et on en conserve d'ailleurs aujourd'hui toujours la dédicace, c'est-à-dire la mise en page de cette partition, dédicace adressée au roi Soleil. Viendront ensuite en 1691 un autre ballet, et puis en 1694 une tragédie lyrique, donc son premier opéra qui s'intitule Céphale et Pocris, ce fameux opéra donc, dont j'évoquerai à la fin de cette émission, l'argument. Et puis, par la suite, eh bien, elle écrira aussi des sonates. On a entendu écouter à l'instant, il y a quelques instants, un extrait d'une sonate pour violon et basse continue. Et puis, elle écrira là un autre recueil de clavecin qui, lui, a subsisté ce recueil de clavecin. Et je vous propose, eh bien, d'écouter un extrait d'une pièce de clavecin composée par Elisabeth Jacquet de la Guerre. C'est la suite, extrait de la suite numéro 6 avec le mouvement rondo. Tout à fait charmant cet extrait, c'était le mouvement rondo. Le rondo, c'est une danse, extrait de la suite pour clavecin numéro 6 d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Je vous le disais, elle abordera tous les styles dans sa carrière, aussi bien la musique profane, la musique religieuse, la musique instrumentale. Donc elle était organiste, elle était claveciniste, elle chantait également. Et elle aborda aussi la musique de ballet et puis la musique d'opéra. Et puis elle écrivit aussi des cantates. Alors si je vous signalais que c'était la première femme à avoir écrit un opéra, eh bien on dit aussi, alors dans les recherches pour l'instant, ce serait elle qui aurait pour la première fois en France, écrite une cantate sur un thème sacré. Elle a utilisé bon nombre de sujets bibliques pour écrire de nombreuses cantates qui sont parues en 2 volumes. Alors, son premier livre de cantates françaises sur des sujets tirés de l'Écriture sainte est publié en 1708 et son second volume, lui, est publié en 1711. Le 1er septembre 1715, disparaissait, mourait le roi Soleil. Et curieusement, à partir de cette date, le silence se fera autour d'Élisabeth Jacquet de la Guerre. Sa dernière œuvre écrite fut un Te Deum donné en la chapelle du Louvre en août 1721. Et ce Te Deum a été écrit et donné pour fêter la convalescence du roi Louis XV. Élisabeth Jacquet de la Guerre mourut le 27 juin 1729 et ses funérailles eurent lieu en l'église Saint-Eustache. Alors revenons sur ces cantates sacrées. Je vous le disais, non seulement première femme à avoir écrit un opéra, mais première femme à avoir écrit un cantate sur un thème biblique, sur un thème sacré. Donc, elle a édité 2 livres de cantates et avec des sujets divers et variés. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, notamment sur le thème de Adam, sur le thème du déluge, sur le thème du temple rebâti, sur le thème de Judith, sur le thème du passage de la mer Rouge, et puis une autre cantate sur l'histoire de Jonas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jonas, c'était ce prophète envoyé par Dieu lui-même, envoyé à Ninive, et puis Jonas désobéit et prend la fuite, notamment en bateau, et Dieu se met alors à déclencher une tempête, et pour calmer la fureur divine, Jonas est mis à l'eau en sorte de sacrifice. Et je vous propose d'écouter un extrait de cette cantate sacrée et composée par Élisabeth Jacquet de la Guerre, donc cantate de Jonas, et ce mouvement, voilà où Jonas se met à l'eau en sacrifice. Voilà, superbe extrait tiré de la cantate Jonas. La soliste disait « Taisez-vous, bruyante tempête, le coupable meurt ». C'était le sacrifice de Jonas qui se jetait dans la mer. Alors, Elisabeth Jacquet aimait entretenir une carrière indépendante. Cela n'empêcha pas l'admiration et le soutien du roi. Elle fut d'ailleurs la seule compositrice dans le cercle intellectuel féminin du roi qui illumina tout le règne du roi Soleil auprès de femmes telles que Madame de Sévigné ou Madame de Lafayette. Alors Elisabeth Jacquet de la Guerre eut un fils qui, dès 8 ans, dans certains écrits, on remarque qu'il avait lui aussi de grands talents musicaux et hélas, la mort l'enleva dans sa 10e année. Ce qui est aussi à noter, eh bien, c'est qu'elle fut la marraine d'un certain Louis-Claude d'Aquin, célèbre organiste et compositeur qui a étudié auprès de sa marraine et elle travailla parfois de pair avec Sébastien Brossard, lui aussi célèbre compositeur de l'époque baroque. Son nom est hélas trop peu connu aujourd'hui, alors que sa musique regorge de profondeur, de mélodies exquises et de couleurs surprenantes, comme vous avez pu vous en apercevoir aujourd'hui dans les différents extraits que je vous ai proposés. Et je peux vous conseiller bien de vous tourner, si vous voulez en savoir plus sur la vie d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, de vous tourner vers une biographie qui est assez récente, qui date de 1995, signée d'une musicologue, Catherine Cessac, C-E-2-S-A-C. Alors, terminons bien par notre commencement, c'est-à-dire Céphale et Pocris, ce fameux premier opéra écrit par une compositrice. Alors, cette tragédie comporte 5 actes. Le livret est tiré d'une tragédie grecque. C'est le mythe de 2 amants qui ne peuvent s'unir sur terre sur décision des dieux. Et l'œuvre est créée en mars 1694 sur la scène de l'Académie royale de musique de Paris. Le succès, il faut le dire, en fut assez médiocre. En cause certainement le style tragédie qui n'était alors plus au goût du jour des salons parisiens. Voilà, c'est ainsi. Et d'ailleurs, Elisabeth Jacquet ne consacra pas plus d'énergie à composer des opéras. Voilà, elle composa davantage de sonates, de pièces pour clavecin, et puis donc ses cantates sur des thèmes sacrés, des thèmes bibliques. Voilà, j'espère vous avoir intéressé et donné envie eh bien, d'écouter un peu plus de ces œuvres magnifiques, trop peu connues, d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Et je vous propose eh bien, de nous quitter sur une sorte d'extrait tiré de ce long opéra qui fait environ 2 heures, Céphale et Procris. Voilà, je vous ai fait un petit montage avec différents extraits de cet opéra. Et puis je vous remercie de votre écoute, merci Simon à la technique et vous retrouvez les références musicales de notre émission de ce jour sur le site de Radio Grand Ciel, sur la page de l'émission Crescendo. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain rendez-vous, à bientôt.